Dans le Tailgate Weekend, c'est jour de match. 100% sport, plus de hockey. Let's go Habs! Let's go Habs! Voici 100% CH avec Richard Labbé.
On va vous demander vos prédictions justement pour ce voyage dans 45 minutes, dans la deuxième période de notre championnat du monde. Richard Labbé, comment ça va?
Allô Greg, je vais bien toi-même.
Ça va très bien, merci beaucoup. On a parlé de tes Cowboys un peu tantôt en comparant cet échange-là de Luka Doncic en disant que dans la NFL, c'est un peu comme si on échangeait Joe Burrow contre Dak Prescott.
Ouais. Tu veux dire que il y a pas vraiment de gagnant, c'est ça que tu veux dire là.
Ben je disais que en ce sens que probablement que les fans des Bengals se demanderaient mais qu'est-ce qu'on vient de faire là? Et on s'est dit, ouais, peut-être que, écoute, ça va être bénéfique pour les deux organisations et les deux joueurs en soi également. Enfin, bref.
Il n'y a pas eu... c'est quoi, non? Jared Goff et...
Matthew Stafford.
Matthew Stafford, oui, c'est un peu similaire à ça quand même, parce que des fois, c'est tout simplement... c'est rare qu'on voit ça aujourd'hui quand même, là. Mais des fois, tu échanges un très bon joueur contre un autre très bon joueur en pensant que... tu vas faire du joueur qui est déjà très bon un encore meilleur joueur dans une autre organisation. Je sais pas si ça fait du sens, mais...
Non, ça fait plein de sens, mais écoute, c'est une transaction monstre, puis on va continuer à en parler à travers cette émission, bien sûr. Mais là, pour l'instant, le Canadien qui, lui, tu sais, se retrouve au beau milieu de tout ça en Californie, tu sais, à Los Angeles, tout ça se passe au beau fixe. Un voyage qui a une importance... peut-être pas mal plus que ce qu'on pensait en début de saison quand on a vu le voyage en Californie. Là, présentement, on veut se remettre et on doit le faire également sur le sentier de la victoire pour les Canadiens de Montréal.
Ben oui, puis c'est, je pense, Kent Hughes qui va regarder ça d'un œil très, très intéressé parce que le Canadien, donc tu l'as dit, s'en va en Californie, il y a trois matchs. Au retour de ça, il y a le week-end traditionnel du Super Bowl, donc les deux matchs en après-midi. Et après, tu as la pause. Là. Après, tu as la pause, la pause des étoiles, mais dans ce cas-ci, c'est la pause pour le tournoi des quatre nations. Alors, c'est que les résultats du Canadien vont fort probablement déterminer la suite des choses là, pour Kent Hughes. Souvenez-vous, la dernière fois qu'il a parlé aux médias, il a laissé entendre que le plan n'allait pas changer. Victoire, défaite, ça n'allait pas changer. Mais je pense que plus la date limite des échanges approche, Greg, ça c'est, on va le rappeler, là, c'est le 7 mars, ben plus cette date-là approche, plus Kent Hughes est confronté à des choix. C'est pas vrai que le 7 mars ne veut rien dire pour le Canadien. Alors, idéalement, là, tu veux être en position de force en arrivant à cette date-là. Et puis, je pense que les résultats qui s'en viennent vont clairement... dicter de la suite des choses pour le Canadien. Là. C'est sûr que si le Canadien revient du voyage, Greg, là, je rajoute les deux matchs au Centre Bell après, là, il en reste cinq avant la pause. Ben, si tu ramasses, je sais pas, deux victoires là-dedans, clairement, tu te positionnes à titre de vendeur le 7 mars. Par contre, si tu ramasses, si t'es capable au moins de jouer 500, ben, tu peux rester sur tes positions et tu peux choisir de conserver même les joueurs qui sont sans contrat en vue de la prochaine saison. Alors, les prochains matchs sont très, très importants pour le Canadien.
Oui, certainement. Et, tu sais, quand on voit, ce sera déterminant. Certains Kent Hughes, c'est un euphémisme d'affirmer que Kent Hughes va regarder ça d'une façon très attentive. Mais quand on voit notamment le prix qu'on a eu pour Granlund et Cici, peut-être que ça change un petit peu la donne. Là. Est-ce que les prix vont monter d'ici la date limite des transactions pour un David Savard, pour un Jake Evans, pour un Mike Madison? Je sais que certains joueurs en ont parlé. Est-ce que c'est Jake Evans ou Nick Suzuki qui avait dit « Je suis tanné de voir mes coéquipiers se faire échanger pour le futur puis on veut commencer à gagner maintenant? » Certainement, mais quand même... T'sais, si on peut aller chercher d'autres monnaies d'échange pour aller chercher d'autres joueurs par la suite qui vont faire partie de ce noyau-là dans le futur, c'est à bien évaluer là, d'ici le 7 mars.
Oui, puis je te ramène, je ne sais pas si tu as attrapé les commentaires de Nick Suzuki là, cette semaine, j'essaie de me souvenir, c'était après le match de jeudi au Centre Bell. Et pour ça faisait longtemps que je n'avais pas senti, t'sais, Suzuki, c'est pas un gars qui est démonstratif particulièrement. Il est toujours d'humeur égale, mais à un moment donné, il a dit qu'il est tanné, là, on parlait de l'arbitrage, puis il dit là, on recommence à chialer, les gars sur le banc sont pas contents, puis
Ouais.
on perd beaucoup d'énergie avec ça. Et je pense que c'est important que le Canadien comprenne un petit peu la situation de certains de ses joueurs. Tu peux pas constamment dire OK, on échange des joueurs sans affecter le moral du groupe là. Puis Suzuki, c'est un jeune vétéran. Il est ici depuis déjà quelques années. Il a goûté un petit peu c'est quoi le succès. C'est sûr que lui, si on arrive le 6 mars, 5 mars, puis qu'il y a trois gars qui sont échangés, il le dira peut-être pas ouvertement, mais je pense que il sera probablement pas très content de la situation si jamais ça arrive. Faut pas négliger ça, Greg. Tu sais, il y a eu des équipes là, par le passé qui ont sous-estimé cet aspect-là. Je pense entre autres aux Sabres de Buffalo. Tu sais, à un moment donné, quand tu étais un vétéran dans cette équipe-là, puis que tu voyais que la direction faisait absolument rien pour t'aider, ben là, tu chiolais, puis tu n'étais pas content, puis ça a donné ce que ça a donné. Alors, chez le Canadien, il faut faire attention à ça. D'ailleurs, Kent Hughes lui-même a parlé des Sabres de Buffalo comme exemple, sans doute comme un exemple à ne pas suivre. Et c'est important, ça. Alors, tu peux arriver le 7 mars, puis tu peux décider, ouais, là, on n'est plus dedans, on peut peut-être aller chercher quelque chose. C'est sûr, là, je te ramène à la transaction de Ben Chariot, là. Greg, là, aller chercher un choix de premier tour pour ce gars-là, c'était absolument inespéré. Alors, si tu as une offre comme ça que tu peux pas refuser, tu dois y penser. Mais en même temps, tu dois faire très attention pour ne pas affecter le moral des troupes en échangeant trois, quatre gars d'un coup.
Non, c'est sûr et certain. Je pense qu'un Jake Evans, notamment, tu échanges un Jake Evans pour finalement tenter de repêcher un gars qui va te rapporter un Jake Evans. Ça fait du sens ce que je dis, là. Je ne sais
Ouais.
pas si tu comprends.
Oh, oui, t'entends. Ouais.
Donc, est-ce que ça vaut vraiment la peine et on devrait peut-être pas lui donner son extension de contrat? On est dans, je pense, une position balancée présentement pour négocier avec Jake Evans, là. Peut-être que le prix, pas nécessairement que le prix a descendu, mais que le rapport de force est peut-être très balancé présentement. Puis je pense que les deux côtés veulent s'entendre. Mais pour le reste, s'il y a des joueurs qui peuvent nous rapporter quoi que ce soit, tu sais, un Armia, par exemple, un Dvorak, ou parfois d'avoir. T'en auras jamais trop des choix repêchage. Tu peux les échanger, les monnayer pour d'autres pour d'autres joueurs par la suite. Puis ça sera intéressant. Là, on est rendu un petit peu plus loin. Puis on s'écarte du sujet qui était le voyage en Californie. Mais ça va être vraiment intéressant de suivre ça depuis jusqu'au début mars, c'est-à-dire.
Oui, on ne s'écarte pas tant, parce que comme je t'ai dit, vraiment, les résultats qui s'en viennent vont être vraiment importants. Puis là, tu parles de Jake Evans, qui est un joueur, je peux te le confirmer, très, très, très apprécié dans le vestiaire. Puis évidemment, c'est pas dans le vestiaire que tu gagnes. Tu gagnes sans glace, ça, c'est bien clair. Mais en même temps, c'est pas évident d'échanger des gars comme ça à cause de l'impact qu'ils ont dans le groupe. Faut vraiment que faut pas que tu te trompes, là. Si tu échanges Jake Evans, tu sais, faut que ça soit quand même quelque chose d'intéressant en retour, parce que tu vas sortir un gars qui est très, très apprécié ici. Alors, les prochaines semaines vont être très, très compliquées pour Kent Hughes, qui aura assurément des décisions importantes à prendre.
Ouais, et tu parles souvent dans tes chroniques NFL, dans la presse, notamment, mon cher Richard, des mystères de la vie.
Oui.
Notamment les Jets de New York en font partie, ou de ces certitudes du fait qu'on sait qu'ils gagneront jamais rien et qui c'est une
Oui.
farce pour les fans des Jets. Vous
Ben non, mais
devez
ils
être
n'ont
un.
pas gagné depuis l'avènement de la télé en couleur, Greg.
Et ce sera peut-être pas non plus l'an prochain, mais un de ces mystères-là, c'est le fait que le Canadien, comme Oli l'a bien dit tantôt, on a de la misère à gagner en Californie. C'est pas facile gagner là-bas, bien que c'est plus trois puissances de la Ligue nationale.
Non, ben là, dans le groupe, qui fait les séries, c'est les Kings seulement, je pense, qui sont dans le portrait des séries dans ces trois-là. Je me trompe pas, les
Oui,
autres
mais il
sont.
va falloir qu'ils arrêtent de perdre, là. C'est pas en gagnant trois matchs dans les 10 derniers qu'ils vont rester dans le portrait bien longtemps.
Non, c'est ça. Ben, je pense qu'écoute, c'est un voyage qui est difficile généralement, parce que c'est, bon, évidemment, décalage horaire. Après ça, bon, c'est des déplacements. C'est plus pour ça. Puis je pense que pendant des années, ben, tu sais, quand tu allais jouer à San Jose, là, dans le temps de Joe Thornton, puis Marleau, puis tous ces gars-là, peu importe le décalage horaire, t'affrontais une super bonne équipe. Donc, c'est un petit peu ça qui était, je pense, qui venait jouer dans les résultats du Canadien en Californie. Mais écoute, dans ce cas-ci, bon, les Kings, oui, ça va être difficile, mais aujourd'hui, il faut que le Canadien gagne ça. Puis j'ai le goût de te dire qu'à San Jose, il faut que le Canadien... C'est idéalement, là, le Canadien doit revenir avec 4 points sur 6 pour se maintenir là-dedans. Après ça, en fin de semaine prochaine, ça sera pas facile au Centre Bell. T'as le Lightning qui est là-dedans le jour du Super Bowl. Donc, c'est ça. Il y a pas d'autre mot, Greg. Les 5 prochains matchs sont super déterminants pour la suite des choses.
Si on avait une certitude depuis le début de la saison, c'était que Lane Hudson allait produire en avantage numérique, était spectaculaire, difficile à contrer, difficile à jouer contre, vraiment en termes de hockey. Mais là, les équipes qui l'affrontent ont vraiment dû faire du vidéo et se sont améliorés, le compte vraiment très bien présentement.
Te souviens-tu, Greg, de ma chronique du 19 janvier à ton émission?
Oui, mais non.
J'espère que... Écoute, j'aurais cru que tu l'avais sur ton disque dur et que tu l'écoutais en permanence le matin en déjeunant.
Mais je peux dire qu'Oli, c'est son cas parce qu'il m'a regardé et il a hoché de la tête à la positive. Mais lui, il s'en souvient très, très
c'était
bien.
C'était après le match contre les Leafs, il me semble. Est-ce que ça se peut?
Ouais.
Dans ce cas-là, je m'en souviens très bien de ta chronique. T'as dit, est-ce qu'on vient de trouver la solution pour contrer Lane Hudson? Ouais. C'était ta question qui déterminait cette chronique.
On appelle ça, dans le langage du sport, mon Greg, le tape. Alors, est-ce qu'on a du tape sur Lane Hudson? Ça veut dire des évidences visuelles pour voir comment jouer contre ce gars-là. Puis les Leafs, ce samedi-là, là, c'était le fameux match du 3-0 qui est devenu une défaite de 7-3. J'avais trouvé que les Leafs avaient bardassé pas à peu près. Écoute, Greg, je ne sais pas si c'est une coïncidence, mais depuis cette date-là, c'est 7 matchs, c'est 3 points. Pour Lane Hudson dans cette séquence-là, 0 point à ses 4 derniers matchs. Mon collègue Simon Olivier, dans la presse ce matin, qui nous informe que Hudson a été victime de 79 mises en échec depuis le début de la saison. C'est le deuxième joueur le plus frappé, si on veut, du côté du Canadien. Et je pense qu'on commence, je sais pas si t'as vu le match contre Minnesota, ben oui, on s'est croisés, je pense, je me trompe. C'est-tu croisé? Je pense qu'on s'est croisés.
Ben oui, on s'est croisés, effectivement. On a même négocié ensemble tout juste avant le point de presse de Martin Saint-Louis.
Oui, exactement. Je vais te donner un vieux souvenir des Ravens de 2000. Alors, je te garde la surprise pour plus tard, mais... le match contre Minnesota, Hudson aussi s'est fait brasser, pas pire. Alors, là, maintenant, on est vraiment à un moment important pour sa carrière à lui, c'est-à-dire que il faut que... Ben, je suis convaincu qu'Hudson est conscient qu'il allait se faire frapper dans cette ligue-là. Probablement qu'il s'est fait frapper depuis qu'il joue au hockey, parce que sans doute qu'il a toujours été le plus petit de son groupe. Alors, probablement qu'il a toujours vécu ça. Mais on est dans le moment où Lane Hudson doit comprendre comment... jouer malgré ce traitement-là. Parce que là, clairement, il est un petit peu... Je le sens un peu dérangé. Le match contre les Leafs, je l'ai vraiment senti dérangé. Et puis là, ben, on est un petit peu là-dedans dans le cas de Lane Hudson. Alors, c'est pas un drame parce qu'il n'est pas le premier à se faire frapper. Puis il y a eu plein de défenseurs avant lui qui se sont fait viser par une équipe adverse. C'est pas nouveau. Mais maintenant, lui doit apprendre à naviguer à travers ça. Et c'est là que les coéquipiers... Tu sais, tantôt, tu as parlé de Mike Matheson... C'est un joueur, tu sais, je sais qu'il n'y a pas d'intouchable, puis on peut sortir le vieux cliché que si Wayne Gretzky a été changé, tout le monde peut être changé. Mais.
Luka Doncic vient de l'être, là, donc ça ajoute à la narrative.
Je le sais, mais écoute, j'aurais de la misère à comprendre pourquoi on échangerait Mike Matheson, parce que lui, justement, joue un peu le rôle du grand frère avec Lane Hudson. C'est important, ça. Je peux pas sous-estimer ce que Lane Hudson apprend de Mike Matheson. Alors, j'ai beaucoup de misère à croire que ça va arriver. Je pense pas qu'on va échanger Mike Matheson, en plus que les gens le critiquent des fois, je trouve, pour des raisons absolument illogiques, parce que c'est un gars qui apporte beaucoup aux Canadiens. Faut vivre avec ses erreurs, parce que je pense qu'il fait pas mal plus de bonnes choses que de mauvaises choses, mais l'échanger, Greg, avec le rôle qu'il a auprès de Lane Hudson, ce serait, à mon avis, une très mauvaise décision.
Non, puis écoute, on a besoin de mentors pour ces jeunes joueurs-là. Puis Lane Hudson, je suis certain que c'est une opportunité d'ajustement, d'apprentissage pour lui, puis qu'il va savoir relever ce défi-là avec brio. Écoute, déjà là, il connaît une saison du tonnerre. Même si, écoute, quand on regarde là, la fameuse grosse photo, là, 4 matchs avec pas de points, là, c'est correct, là. dans une saison.
Mais, oui, absolument. Absolument.
Je sais que tu n'es pas en train de le critiquer du tout, là, mais... Mettons les choses en perspective aussi. Lane Hudson nous offre du hockey exceptionnel depuis son arrivée dans la Ligue nationale. Il connaît une saison recrue, je pense qu'on peut le dire, là, historique, dans laquelle il s'est frotté au meilleur de l'histoire de cette Ligue-là. Et c'est certain qu'à un moment donné, il allait arriver un moment où les adversaires allaient s'ajuster. Ce moment-là, c'est probablement au moment où on se parle, mon cher Richard. Puis, voyons voir comment il va réagir dans ce voyage-là en Californie. T'as raison. L'appui, l'apport de Mike Madison est capital pour lui, très, très important. Et écoute, on verra.
Écoute, puis oublie pas, c'est pas... On est aussi pour lui, puis là, dans une autre chronique d'anthologie, Greg, je me souviens bien à ton émission, je t'avais parlé...
Elles sont toutes d'anthologie.
J'essaye. C'est pas facile à chaque semaine, mais c'est un défi que je me fixe à chaque semaine avec toi. On avait parlé de l'inconnu, souviens-toi aussi. Ben lui, il est là-dedans également. Là. Je rappelle ça aussi l'an passé, Lane Hudson. Sa saison, c'est 47 matchs déclinés sur trois formations différentes. Là, il est passé ce chiffre-là présentement et il est dans l'inconnu présentement. Encore une fois, là, comme tu l'as dit, très jeune, ça fait partie de l'apprentissage, c'est pas grave. Mais lui doit comprendre que c'est un marathon, c'est pas un sprint. Et Greg, je vais peut-être te citer un de mes philosophes favoris, Pat Burns, qui disait que c'est à la fin de la soirée qu'on reconnaît les meilleurs danseurs.
Oui, j'ai beaucoup aimé d'ailleurs dans ta chronique cette semaine que tu dises toi-même qu'il y a des gens qui te corrigent, hey, c'est pas Pat Burns qui a dit ça.
Écoute, Pat a dit beaucoup de bonnes choses et puis moi je me donne la liberté de lui attribuer d'autres citations qui sont excellentes également, presque aussi bonnes que les siennes.
Pat était légendaire, bien sûr, notamment par son coaching, mais aussi par ses déclarations. Il y en a une qui a commencé par « en bon français ».
Ouais.
N'est-ce pas? Celle-là est vraiment Pat Burns, puis celle-là, on l'oubliera jamais, certainement. Richard, merci encore une fois de cette chronique. Écoute, je vais citer un de nos auditeurs, Alex, qui dit « comme dirait Gilbert, les chroniques de Richard sont toujours historiques. C'est comme au soccer, c'est la même chose, c'est historique ».
Écoute, anthologie et historique, c'est ça qu'on vise à chaque fois.
C'est incroyable. Et si nous visons ça, ben nous tombons dans l'excellence. Merci, mon Richard. On se reparle. Écoute, la prochaine fois qu'on se reparle, ce sera le jour du Super Bowl.
Oui, exact. Eh hey, ben là, écoute, je vais t'appeler entre les crêpes et Suzette au Centre Bell, moi, là, je vais, parce que le match est à 13h, je pense. Alors, on va déjeuner puis on se parlera en déjeunant, tiens.
Entre les crêpes, Suzette. Salut mon Rich, bonne semaine.
Salut, bye bye.